nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes, c'est incroyable, le lundi 21 décembre, 8h30, et avec moi Corto, salut Corto.
Salut, salut.
Au programme de cette matinale, nous serons dans un instant avec Tib et Maë pour parler avec eux de leur périple à vélo de 3 mois, belle aventure entre un père et son fils, ils viendront nous en parler. Et puis c'est les vacances, on parle de voyage, de nature, un peu de feel good, de détente comme on dit. Et on rediffusera l'interview de Patrick qui anime l'émission H1000 sur nos ondes le dimanche à 16h. Patrick qui nous fait toujours le plaisir de venir nous voir et on l'embrasse, là il doit être dans ses montagnes en train de préparer la prochaine saison. Il y aura de la musique comme d'hab et on commence en corto par l'édito.
On peut être en désaccord, mais enfin vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Allez, je vais te prendre au dépourvu corto et je vais te faire parler. On se détend aujourd'hui, j'avais pas envie de faire un édito engagé. À ton avis, c'est quoi l'animal en mer le plus dangereux?
Le plus dangereux en mer, c'est-à-dire le plus dangereux,
le plus toxique et le plus mortel.
Pour l'homme donc.
Ouais.
Il me semble que c'est une méduse, non?
Ah, ça,
c'est pas loin.
En tout cas, t'as pas répondu requin comme l'aurait dit n'importe quoi. Eh ben ouais, le requin traîne une mauvaise réputation, les méduses aussi, hein, qu'on a pu voir dans des films comme Les Dents de la Mer ou Sharknado notamment. Voilà, ça s'est pas arrangé. Pourtant, malgré sa mâchoire impressionnante, il n'a été responsable que de 130 attaques dans le monde en 2018, dont 5 mortelles. Alors, qui est le plus dangereux dans l'eau? Le crocodile? Ben non, même pas. En regroupant toute la famille alligator compris, ces reptiles causent environ 1 milliers de morts par an, ce qui est complètement ridicule. Dans le monde aquatique, ce sont les escargots, les escargots qui occupent et de loin la place de premier tueur d'humains, bien sûr. Alors, ce ne sont pas des mangeurs d'hommes, hein, pas davantage que les moustiques ne nous dévorent au sens propre. Mais tout comme ces derniers peuvent transmettre le paludisme, des escargots d'eau sont les vecteurs d'une autre maladie parasitaire qu'on appelle la bilharziose. Voilà, ce matin, il ne faut pas déconner, par exemple. Les escargots d'eau engendrent, tiens-toi bien, plus de 200 000 morts annuellement. Et arrive ainsi dans le top des tueurs d'humains dans le monde aquatique. Et c'est ce que relate notamment le magazine L'Obs. Mais comment exactement? Eh bien, c'est par le biais des larves des vers parasites qu'ils transportent. Ce transfert se produit lorsque des hommes entrent dans les eaux visitées par ces mollusques. La maladie peut se développer sous deux formes, intestinale ou urogénitale. Mais les vers vont grandir dans le corps humain dans les deux cas. Ces parasites vivent dans les vaisseaux sanguins dans lesquels les femelles pondent leurs œufs. Certains des œufs sortent de l'organisme par des matières fécales ou l'urine et le cycle de vie parasitaire se poursuit. Et voilà, c'est ce qui est indiqué aussi par l'Obs. Mais d'autres sont piégés dans les tissus de l'organisme provoquant une réaction immunitaire et des lésions évolutives dans les organes. L'organisme essaye de se protéger contre ces corps étrangers, mais cette tentative provoque des dommages massifs chez les personnes contaminées. Et malheureusement, où est-ce qu'il se trouve cet escargot?
Eh ben, je n'en sais rien du tout.
Eh ben, malheureusement, il se trouve en Afrique. Et oui, encore et encore. Voilà, on parle de tout à fait autre chose. On se retrouve dans un instant avec Tib et Maë, mais on écoute d'abord Dirty Old Matt, le Gwen à doux dans la peau.
Elle se dévoile au petit matin, quand le soleil transperce la brume, quand le vent de Norrois chargé d'embrun vient te cracher à la figure. C'est un littoral déchiqueté par la colère des éléments, une péninsule en noir et blanc à l'autre bout du vieux continent. C'est le pays du Goémon, du blé noir et de la jonc. Ways and days, ways d'Arviken, un mal aux rues d'Aralawet, j'ai le Gwenadu dans la peau. Souvent conquis prise, jamais soumise. Sa liberté lui est si chère, c'est dans ses traditions qu'elle puise sa fierté et son caractère. Sa devise et sa bannière, plutôt mourir que la souillure, résonne comme un cri de colère quand on veut lui mener la vie dure. C'est le pays du goémon, du blé noir et de la jonc. Weizen des West Aviken, un mal aux rues d'Aralawet. J'ai le quenadu dans la peau. J'ai le quenadu dans la peau. J'ai le quenadu dans la peau. En irant à la nuit tombée, quand la lumière des tours de feu s'en vient lécher et caresser les grèves et le ciel nuageux. Ici c'est la vie simplement, sans artifice ni fioriture, terre de marins, de paysans, où se mêlent les gens des natures. C'est le pays du goémon, du blé noir et de la jonc. Weizen des West Aviken, un mal aux rues d'Aralawet. J'ai le quenadu dans la peau. 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 J'ai le quenadu dans la peau.
Nous sommes ce matin avec Maë, bonjour.
Bonjour.
Et avec Tib, bonjour.
Salut mon Ben.
Alors on vous connaît bien ici sur Bartas, ça fait plaisir de vous retrouver. Tib, t'étais chroniqueur dans l'émission Balle au centre et Maë, t'as prêté ta voix à quelques trucs assez sympas dont on se souvient. Et vous revenez d'un périple en vélo. Et comme vous en avez parlé à la presse italienne, il n'y avait pas de raison qu'on n'en parle pas ici à Bartas. Alors auditeurs, auditrices, si vous nous connaissez un petit peu, vous savez très bien les liens qui nous unissent avec Tib et Maë. Voilà, on est excellemment potes, mais bon, il n'y a pas de copinage aujourd'hui, on va parler de votre voyage. Vous êtes parti le 21 septembre et vous êtes rentré le vendredi 11 décembre. Quel voyage en vélo? Alors Maë, pour les auditeurs et auditrices qui se rendent compte, t'as quel âge?
9 ans.
Alors vous avez fait combien de kilomètres en vélo, vous savez?
2300
bornes. Waouh, en 3 mois. Alors on va parler du parcours, mais d'abord, Tib, comment c'est venu cette idée d'embarquer ton fils dans cette aventure?
Ça s'est fait petit à petit. En fait, à la base, on devait partir un an, enfin l'année scolaire, en avion, en Asie, cause Covid, comme pour tout le monde, annulé, forcément, frontières fermées, plus d'avions, enfin voilà, on connaît l'histoire. Et on s'est dit, ça va être trop dur de rester un automne à la maison quand t'as un projet comme ça sur l'année, il faut qu'on trouve une autre idée, une autre aventure. Et à la base, on a commencé juste à se dire « Ah, mais ça pourrait être sympa de faire le canal du Midi en vélo, on se fait des petits bivouacs, on dort au bord de l'eau, on pêche, c'est plat, c'est facile. » Voilà, parce qu'il faut bien dire, on n'est pas cycliste pour un sou. À la base, le seul moment où on prenait le vélo, c'était école, maison, 2 km au beau jour, 4 fois par an. Donc, on n'était pas vraiment dans l'exploit sportif de base. Et en fait, l'idée a petit à petit pris de l'ampleur. En fait, on est parti après, on s'est dit, ah, mais il y a le canal latéral de la Garonne, en fait, qui est le même, hein, c'est le grand canal du Midi. Et donc, on s'est dit, allez, partons de Bordeaux, allons jusqu'à Sète. Et puis à Sète, on s'est dit, mais pourquoi pas tirer jusqu'à Montpellier, Marseille. Et là, c'est à Viarona, en fait, on reste que sur du plat et de la piste cyclable. Donc, c'était cool pour un trip vélo. Maë, qui n'a pas trop l'habitude de la circulation, des peinards. Il n'y a pas de danger. Et puis après, on s'est dit, bon, on est quand même aux portes de la Corse. Le bateau, c'est quand même une aventure. Allez, on va jusqu'en Corse. Et puis après, on s'est dit, bah, la Sardaigne, qui est juste après. Et la Sicile, forcément, avec tous ces volcans et ces terres de feu là, qui nous donnaient vraiment envie. Et on s'est dit, voilà, sur 3 mois, c'est déjà très ambitieux. On va déjà voir ce qu'on peut faire. En sachant qu'après, quand on est passé en Corse, la Sardaigne et la Sicile qu'on n'a pas pu faire, mais qu'on aurait bien aimé. Là, c'est fini les pistes cyclables, il y a du dénivelé. Voilà, c'est une autre façon de voyager. Après, ça, c'est un peu plus...
On va en parler de tout ça, revenir un peu plus en détail. Mais d'abord, on va parler de la préparation. Tu as commencé donc à réfléchir ça juste avant l'été, s'il me semble, ce voyage-là, un peu encore avant.
Ce voyage-là, l'idée a germé, on va dire, début d'été, ouais, mais on a pris la décision finale de ne pas partir en Asie, en fait, que mi-août. Donc, on a vraiment pu s'y projeter et faire la préparation, on va dire, technique, quoi, les vélos, les sacoches, enfin, plein de choses qu'on a besoin pour ce genre de trip. On a dû la faire un peu rapidement, quoi.
Saluons Ophélie qui a préparé un peu vos vélos, hein, qui est un peu itinérante, que tu es allé voir.
Ouais, qui a bien, en fait, qui a changé un peu tout ce que moi je m'y connaissais pas trop au début. Bon, c'est sûr qu'après 3 mois, là, on commence à tâter un peu la mécanique vélo. Mais au début, ouais, elle a tout checké, qu'on n'ait pas de grosses surprises mécaniques un peu dangereuses, tu vois, que ce soit les freins, tout ça au début. Pour partir et partir dans de bonnes conditions, t'as plein de trucs à penser, c'était cool qu'elle s'occupe de cette partie-là. Ouais.
Pour ceux qui voudraient faire ce trip-là, donc au-delà du vélo, c'est aussi penser au paquetage, à la remorque, voilà, et se dire, parce que vous trimballiez combien de kilos, toi combien de kilos et Maé combien de kilos?
Écoute, on s'est pas pesé, je devais le faire en rentrant là pour voir un peu. Maé, je pense que lui, dans le trip, après ça dépend un peu si t'as ton plein d'eau, ton plein de bouffe, et là ça augmente vraiment rapidement. Mais on va dire à plein, c'est-à-dire pour 2 jours d'autonomie en bouffe et en eau, Maé, il devait être aux alentours des, juste en pactage pur, des 15 kilos. Et moi, je pense aux alentours des 50, 60 kilos, je pense, voilà, sans compter les vélos, juste en bagage, quoi.
Ouais, c'est pas mal, hein. Moi, ouais. J'ai assisté au départ, c'était assez intéressant quand même, ça tanguait pas mal.
Ouais.
Maé, est-ce que quand ton père t'a parlé de cette aventure, tu t'attendais à ce que t'allais vivre là?
Non, pas du tout, pas du tout.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris?
Bah, c'est qu'à un moment, il m'a dit, bah, tu sais, il y a la Sicile ici, on peut revenir en bateau, train, on pourra revenir en France. Ça va être trop bien. Et puis là-bas, il y a les volcans en éruption. Ça va être trop bien. Mais bon, on n'a pas pu le faire.
Et non, puisque la Sicile est en zone rouge et se confiner là-bas, ça aurait quand même pas été simple.
Non.
Et c'est quoi ton plus beau souvenir sur tout ce voyage?
C'est quand on a fait 2 journées off dans sur une plage paradisiaque et que juste après, on a rencontré des gens... trop sympa qui nous a invités à manger. On a mangé le soir et ils sont partis le matin. On voulait faire l'Espagne, une partie de l'Espagne sur... c'était quoi déjà?
En fait, c'était deux marins qu'on a rencontrés qui partaient en Espagne avec leur voilier. Et ils étaient vraiment trop cool. Et vu que nous, on avait déjà fait la totalité de notre trip, qu'on était juste sur le retour en relongeant la côte sarde pour remonter chez nous, on s'était dit pourquoi pas partir avec eux, ils allaient aux Baléares, et sauf que les vents étaient bons pour le matin, ils sont partis très tôt et on n'a pas pu leur demander.
Raté.
Mais bon, ce qui nous attendait derrière était fou aussi, donc c'est ça le voyage, quoi. C'est que ça peut partir dans n'importe quel sens, et c'était une belle rencontre.
Pour les bivouacs, jamais de galère, parce qu'à signaler, bon voilà, ça se dit, hein, vous faisiez camping sauvage, quoi.
Tout le temps du camping sauvage. L'avantage, c'est qu'on est hors saison, donc on est en pleine saison touristique. Je pense que ce qu'on fait là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc hors saison, ça passe. Bon, c'est sûr que les conditions météo, elles sont différentes. On n'est pas sur des températures estivales. Voilà, ça caille un peu plus, c'est plus humide. Mais en même temps, il n'y a personne, donc ça te permet... Eh ben de vraiment te poser un peu où tu veux, dans le respect des règles simples, quoi. C'est-à-dire que bon, voilà, tu te poses... au bout d'un moment, tu sais quand même où tu peux te poser sans gêner, sans déranger. Et on n'a pas été... on a été embêté une petite fois, mais on le savait, c'était dans un endroit... il y avait une barrière qui était couchée par terre en Sardaigne. C'était impossible de se poser autour. Il faisait nuit. Je me suis dit, voilà, là, on n'a pas le choix, on va là. Et le gars a un petit peu gueulé parce qu'on était sur son terrain. Mais enfin, je veux dire, voilà, il nous a juste dit, c'est un terrain privé. Bah oui, on le savait, mais on est arrivé tard le soir. Ok, bah merci de partir. Oui, on part le lendemain matin. Donc on a fait notre nuit. Mais c'est le seul petit incident qu'il y a eu. Sinon, tous nos bivouacs se sont super bien passés. Et on va dire, on a eu de la chance de par l'itinéraire, très certainement, mais dans 95% des cas, dans des endroits paradisiaques, quoi.
Et il y a une espèce d'idée reçue sur la Corse, en fait, où justement, camping sauvage est compliqué, les Corses sont très attachés, etc. Mais vous, il n'y a pas eu de soucis, quoi.
Non, on a, dès le premier bivouac, j'ai quand même fait très attention. On est en Corse, tu le sais. Dans le bateau, déjà, t'as des affiches, en fait. Alors, c'est surtout pour les camping-cars, je pense, parce que nous, le camping sauvage, quand t'as une petite tente de bivouac très discrète, que t'es en vélo, c'est pas vraiment le public, je pense, qui dérange en camping sauvage. Tu sais, c'est plus les camping-cars quand ils arrivent par centaines sur l'île en été. Et du coup, ce qu'ils mettaient sur le bateau, c'est... la Corse, en Corse, la nature est sauvage, pas le camping. Donc ça plante le décor déjà avant d'arriver. Mais bon, et sur cette photo-là, t'avais un camping-car. Donc en fait, non, on n'a pas été emmerdé en Corse en faisant certainement aussi plus attention que sur le continent. Et après en Sardaigne, aucun souci. Mais voilà, c'est plus grand la Sardaigne et c'est pas la même mentalité. Tu te sens accueilli, les gens sont contents que tu sois là. En Corse, on va dire que c'est ni l'un ni l'autre, mais là, quand on est passé en Sardaigne, on a senti vraiment ce côté heureux qu'on vienne en vélo, de voir un enfant qui fait ça. Il y avait vraiment une bonne énergie là-bas, donc ouais, il n'y a eu aucun problème pour le camping sauvage.
Maë, est-ce que tu te souviens la pire fois où tu as galéré?
Ça, c'était en Corse, une grosse montée.
Il pleuvait comme c'est pas permis.
Et on n'a pas pu monter, même papa il montait à pied. Bon, après la galère amène quand même des rencontres. Après on a rencontré des gens trop sympas qui nous ont invités à dormir. Et on a dormi 2 jours parce que le lendemain il pleuvait encore. Et on est reparti et c'était que de la descente après. C'était cool.
J'imagine, vous êtes père et fils, hein, évidemment, vous entendez pour vous connaître extrêmement bien, mais bon, vous êtes à deux sur des vélos, tout le temps, 24 heures sur 24. Maë, ça a été avec ton père?
Moyen, on s'est quand même bien engueulé.
Ouais, et puis en plus, émotionnellement, c'est compliqué. Enfin, tu vois, il y a l'effort, et dans l'effort, du coup, la psychologie, elle joue énormément, et donc, du coup, t'es fatigué. C'est des longues journées souvent où tu pédales pour aller d'un point A à un point B sans vraiment qu'il y ait d'objectif, mais c'est quand même cool d'avancer et des fois tu te fais surprendre par des gros dénivelés, tout ça, surtout la deuxième partie du voyage. Et donc forcément la fatigue plus l'effort plus tout ça, bon, il y avait de l'ambiance quoi. tu vois, c'était voilà, mais après ça apprend aussi à mieux se connaître quoi, tu vois. Enfin, si c'était tout platonique, ça aurait pas été normal, enfin, ça aurait été étonnant.
Ouais, c'est ça, c'est tout un panel d'émotions par lesquelles tu passes.
Fort, en tout cas, ouais.
Et est-ce que vous vous êtes dit une fois l'un ou l'autre, il y en a marre, on rentre?
Moi, non.
Oui.
Le problème, c'est qu'il devait rentrer seul en vélo, donc généralement, il me suivait.
Mais Maë, bravo, je suis très admiratif, hein, t'as dû dépasser tes limites pour réussir. Ce périple.
Oui.
Où est-ce que tu allais chercher l'énergie?
Je sais pas. J'ai puisé. Je sais pas où.
Là où il y en avait, mais apparemment, il sait pas encore laquelle case il a dû ouvrir pour continuer.
Et type, toi, ton plus beau souvenir du voyage?
Ça, c'est vraiment pas facile. Enfin, si tu veux, moi, il y en a plein, j'ai du mal à les classer, c'est tellement de petits. C'est le voyage en lui-même, mon plus beau souvenir, parce que après, c'est 1000 moments avec Maë où tu vois, ses émotions fortes, elles sont basses, on s'engueule, mais elles sont aussi énormément fortes. Genre, je m'en souviens une, c'est quand on est arrivé, même plusieurs, la première étape, c'est quand on a vu la mer Méditerranée, on est quand même parti de l'Atlantique, on arrive sur la mer Méditerranée, et tu poses ton vélo, tu arrives sur la plage, tu sais, c'est la fin, parce qu'il y a la mer, parce que tu peux aller plus loin, c'est le sable et l'eau. Et là, on s'est mis à gueuler, à serrer dans les bras, c'est un moment d'euphorie, tu vois, tu te dis, on l'a fait, et t'oublies toutes ces galères après, quand t'arrives à ces challenges-là. Après, moi, je crois que c'est vraiment les étapes du voyage que j'aime bien. Après, quand on prend le bateau pour aller sur l'île, tu vois. Et après, on a enchaîné 1000 plages paradisiaques. Donc, des beaux moments, c'est difficile de les classer.
Puis des jolies rencontres, comme le disait Maë tout à l'heure.
Et voilà. Et en plus, les rencontres, elles se font. Et on l'a vu dans le voyage. Souvent, quand tu galères, quand tout va bien, t'as pas besoin spécialement d'aller vers les autres parce que t'es autonome, tu fais tes petits trucs, voilà. Mais quand tu commences à vraiment galérer et qu'il faut te sécher et que voilà, tu peux pas rester dehors. C'est là que tu es obligé d'aller vers les gens et que tu te rends compte que du moment que tu vas vers les gens t'ouvrent la porte. Par contre, il faut faire l'effort d'y aller. Mais à aucun moment on nous a fermé une porte. Donc, les rencontres après sont folles et elles sont atypiques parce que le parcours est atypique, il t'accueille dans des conditions atypiques, donc c'est génial quoi.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un, un auditeur, une auditrice qui nous écoute et qui a envie de faire ce périple, quel conseil tu donnerais?
De le faire. Non mais de se motiver, tu vois, nous on l'a fait sans aucune expérience au préalable, sans aucune préparation physique non plus. Le but c'est déjà de se dire c'est faisable. D'y aller petit à petit. Au début, tu vois, pour donner un ordre d'idée, on attaquait par des étapes de 20 km sans dénivelé, ce qui est vraiment facile en vélo. Enfin, il n'y a pas besoin d'être... avec aucune condition, ça passe. Et petit à petit, en fait, tu fais de plus en plus de bornes, mais sans le réfléchir, en fait. C'est ton corps qui, lui, par lui-même, va un peu plus vite, un peu plus longtemps. Et pareil, s'il te manque des trucs au début, tu le sais rapidement. Donc, on va dire, tu as une semaine pour te mettre en jambes, racheter des choses. Donc, si tu attaques un périple, c'est bien de le faire... par des étapes simples où il y a des ravitaillements faciles, et puis tu, en une semaine, tu arrives à te dire ok, c'est bon, là je peux partir 15 jours, un mois, trois mois.
Maï, qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant le voyage?
Les copains et maman, c'est ça qui m'a vraiment le plus manqué. Voilà, ça m'a vraiment manqué. Sinon, c'était parfait, il manquait juste les copains et maman.
Pour te dire que ta mère est très fière de toi, sans nul doute, comme ton père, de toute façon, je veux dire, c'est ça le sentiment que tu as envers ton fils après ces trois mois passés.
Ah bah ouais, c'est clairement d'avoir partagé quelque chose que peu de gens ont la chance de partager. Je remercie sa mère, clairement, qui nous a permis de faire ce trip, que ça aurait été impossible sans son accord et sans qu'elle soit là, présente. On avait fait un petit groupe WhatsApp, tu vois, pour nous dire où est-ce qu'on en était, enfin normal, quoi, donner des nouvelles... Et du coup, elle mettait toujours sa petite patte de bonne énergie, de bienveillante. Donc ça a été très, très important pour Maë et pour moi aussi, pour assumer ce genre de délire. Je suis très fier, forcément, de l'avoir fait. Parce qu'au début, tu planifies ça, tu dis, c'est la chose la plus folle qu'on peut faire. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ou pas, sans objectif réel? Quand tu l'as fait et que tu rentres, tu te regardes, tu fais... On l'a fait, quoi.
On est obligé, entre guillemets, obligé, non, on est obligé de rien, mais quand même, on va parler de la déscolarisation de Maï, puisque tu as dû le faire, évidemment, l'école est obligatoire. Comment ça s'est passé? Et est-ce que vous avez fait des devoirs? Enfin, comment ça s'est passé par rapport à sa scolarisation?
C'est simple. En fait, c'est un papier que t'envoies à l'académie. Au début, sa maîtresse m'avait dit, tu peux peut-être demander une absence de 3 mois ou une déscolarisation, ce qui pour moi était exactement la même chose, mais... Une absence, c'était peut-être plus facile pour réintégrer sans faire moins de paperasse derrière. Mais l'absence a été refusée, donc c'est une déscolarisation. Mais je te dis, c'est un papier envoyé. J'ai pas eu de réponse d'ailleurs, hein. J'ai juste envoyé le papier pour leur signaler qu'ils seraient plus à l'école. Et après, ça a été quelques heures par semaine, mais c'est pas énorme en fait. Quand tu vois que quand tu t'occupes en cours particulier de ton enfant, c'est intégré très rapidement en fait les principes de la scolarité. Après, ce qu'il n'y a pas tout autour, c'est l'interaction avec tous les copains, c'est tous les ateliers certainement que l'école met en place. Mais bon, nous, on a le voyage, donc ça permet une autre interaction, ça complète ce que fait l'école. Et en gros, on était sur, 3-4 heures par semaine de d'école, on va dire, tu vois. Mais après, il y a plein de principes au cours du voyage, que tu vois, il calcule ses kilomètres, à combien de kilomètres on va, enfin, tu fais...
Ouais, dans la pratique, la scolarité se fait là aussi.
Continue quoi. Aussi, ouais.
Et t'as reçu un dernier papier de l'académie pour un contrôle, un truc comme ça?
Ouais, j'en ai reçu un. Alors, quand est-ce que je l'ai reçu, je sais pas, mais en tout cas, je l'ai vu là dans la boîte aux lettres. Et pour un contrôle, le mi-janvier, mais vu que Maë va retourner à l'école, il faut que je prenne le temps de leur dire, contrôle, oui, pas de problème, il sera à l'école en tout cas. Donc, je vais voir avec eux, mais en gros, ouais, t'as un contrôle au bout de 6 mois, apparemment, qui vient voir si les bases sont acquises, ce qui est bien, je pense. Enfin...
Maë, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais?
Ouais, mais pas dans les mêmes endroits, il faudrait qu'on fasse autre chose.
Alors, justement, ce qui nous permet d'arriver à la question, hein. Tib, tu as un projet pour septembre 2021, évidemment, puisque tu as croqué dans la pomme et tu peux plus t'en passer.
Ouais, ben en fait, pour 2021, tu sais, on devait, on avait repoussé notre voyage en Asie et en avion. Mais je cherchais un fil conducteur, pareil. Donc là, je vais redéscolariser Maë pendant une année. En fait, je fais ça avant le collège parce que c'est plus simple. Après le collège, bon.
Et puis, t'as pas le niveau pour lui donner les cours.
Ouais, c'est compliqué d'être professeur de maths, des machins, des trucs. Non, j'ai le bac, donc je peux dire, je suis prêt à tout. Mais mais c'était plus facile. Voilà. Et puis, CM2, je crois que c'est la fin d'un cycle. Enfin, c'est vraiment une année. En ayant discuté avec les instituts, que tu peux faire péter un peu plus facilement, quoi, où il y a moins de choses à apprendre. Et donc, du coup, on devait juste repousser ce voyage. Mais voilà, il manquait un petit fil conducteur pour que ça soit... c'est bien de faire un voyage touristique, mais il faut qu'il y ait un intérêt, tu vois, pour Maë, culturel, plein de choses, quoi, un thème. Et en fait, ce voyage nous a quand même changé sur la façon de voir le voyage. Le vélo, c'est un outil formidable pour voyager parce qu'il est lent, on va dire. Tu vois tous les changements de paysage, les changements de mentalité. Enfin voilà, tout change lentement, mais tu avances assez rapidement sur une carte. Jour après jour, c'est-à-dire que quand tu fais 50-60 bornes par jour, en 10 jours, tu as fait 500 bornes. Et donc, on s'est dit, écoute, pourquoi pas mettre à profit les rencontres qu'on a faites. On a rencontré une famille avec deux enfants qui sont partis pendant 6 mois et qui étaient en vélo électrique, en autonomie électrique avec des panneaux solaires. Et c'est impossible de faire autrement vu le pactage qu'ils avaient et leurs deux enfants. Et c'est génial parce qu'ils ont réussi à trouver une solution là où moi, je me disais, mais comment on peut faire quand on a plus d'enfants et pas en l'âge comme Maë de pédaler? Et donc, on s'est dit, c'est génial leur délire. Et on a inventé le nôtre là, qu'on est en train de petit à petit de mettre sur papier.
Sur roue, quoi.
Sur roue, papier. Et en fait, ça serait de partir donc pendant 8 mois. En autonomie énergétique et en autonomie aussi, donc bivouac, de partir d'Ushuaia, donc l'Amérique du Sud, et de traverser toute l'Amérique du Sud, donc ce qui nous permettrait quand même avec une assistance électrique, surtout à l'âge de Maë, c'est très important parce que c'est des efforts normalement qu'il ne faudrait pas faire sans assistance électrique, clairement, et d'avoir un pactage conséquent pour être à l'aise pour ce long voyage, et tout en même temps en étant en extérieur, en faisant du vélo, quoi. Donc, je disais, donc continuer à aller assez doucement pour profiter du changement de ces paysages et de se rendre compte que l'immensité, tu vois, que tu traverses, et d'arriver jusqu'aux Caraïbes. Et après, le trip, ça serait vraiment de prendre un voilier, de trouver quelqu'un qui veut bien nous prendre. On a 1 an et demi pour trouver, et qu'on se fasse la traversée jusqu'en France, rentrer en voilier en France. Donc partir d'Ushuaia et rentrer jusqu'à Florac. Sans assistance motorisée, on va dire, mais d'avion, de voiture, de bus. Enfin voilà, le trip, ça serait ça pour l'instant, après avoir tout ce qu'on y met dedans, quoi.
Et on fera tout pour être partenaire, nous, au niveau de Bartas, hein, pour vous aider dans ce projet. Et puis pour que, auditeurs, auditrices, vous ayez aussi de temps en temps des petites capsules sonores qui nous viennent d'Amérique du Sud. On est en train de mettre ça sur pied tout doucement.
Ouais, le but, c'est vraiment celui-là. J'aimerais qu'on le partage plus, qu'il y ait vraiment un but de dire encore plus comme on le fait là à la radio. C'est possible, on peut. Voilà les éléments techniques pour y arriver. Voilà, Maë, moi, il adore faire de la photo, des montages photo. Donc, pourquoi créer un petit film et voilà, et le partager, en fait, que ça reste pas juste pour nous et que ceux que ça intéresse, que ça fait rêver, et bah, qu'ils puissent le vivre en même temps, quoi.
L'affaire, ce sera l'année prochaine et on a hâte, entre guillemets, d'y être. Il va se passer plein de choses avant. Merci Maë et bravo.
Merci.
Et merci beaucoup Tib.
Mais de rien.
Et bravo aussi, bravo pour votre combien 2400
2003, il disait. Maë, c'est lui qui avait le compteur, hein, c'est lui qui a géré tout ça. Ouais.
2300 kilomètres. Maë, tu vas écouter quoi?
Tostaki et des Noirs Désirs.
Allez, on écoute Tostaki de Noirs Désirs. À bientôt les amis, ciao.
Salut.
Salut.
Des femmes sans visage.
Patrick de l'émission H1000 était passé nous voir cet été. Eh ben, on réécoute ça. Nous sommes ce matin et c'est toujours un plaisir de le recevoir. Il vient nous voir tous les ans. Patrick de l'émission H1000, salut.
Bah, bonjour à Radio Bartas, bonjour à vous et merci de me recevoir.
H1000, c'est tous les dimanches à 16h sur nos ondes. Ah, t'es à ta combientième de saison là ?
Alors en fait, je pense que je suis pas loin de ma 10e saison sur Bartas, peut-être. Ouais, si, ça fait à peu près, je pense, une dizaine d'années que vous me diffusez.
Si des auditeurs et des auditrices ne connaissent pas H1000, je vous invite vraiment à aller la découvrir. Mais comment tu pourrais décrire ton émission ?
Bah, en fait, c'est une émission qui est en rapport avec la nature. Et bon, le leitmotiv de l'émission, c'est que le son remplace l'image. Donc, en fait, il s'agit de restituer de manière la plus réaliste une carte postale sonore. Voilà.
C'est ça, une balade sonore, en fait.
Balade sonore, une randonnée sonore. C'est-à-dire tous les ingrédients qui constituent une randonnée sont enregistrés, autant quelques commentaires que les oiseaux qui passent, le vent qui traverse les branches, la pluie, l'orage, la neige, enfin, voilà.
Alors, tu prends tout ton attirail et puis tu t'en vas. Comment tu choisis un peu les lieux que tu décides d'enregistrer ?
Ah ben, les lieux, moi je suis passionné de montagne, donc c'est vrai que la plupart des émissions sont réalisées dans les Pyrénées, mais j'essaie d'ouvrir sur d'autres secteurs, notamment votre beau pays qui est la Lozère, Florac et tous ses environs, mais aussi je peux aller faire des prises de son en Bretagne, quelquefois dans des villes comme Prague. Cette année, il y aura une émission dédiée à cette belle ville qu'est Prague. Et en fait, je choisis les lieux en fonction de la richesse qui peut s'y trouver, richesse au niveau sonore, ce qui inclut donc la faune, la flore. Et ce que je peux dire, c'est que malgré tout, ça reste de plus en plus rare, enfin ça se raréfie parce qu'on sent que la biodiversité est en train de s'appauvrir. Alors là, il y a eu un sursis, c'est malheureux à dire, avec le Covid, le confinement, c'est-à-dire que les avions ne passent plus. Et en fait, l'ennemi du preneur de son, c'est les avions qui passent même à 10 000 mètres au-dessus de vos têtes. On les entend énormément avec les micros que j'utilise.
Voilà. Donc toi, tu as vraiment vu une grosse différence pendant toute la période de 2 mois, parce que tu me disais en antenne que tu avais continué de bosser.
Oui, tout à fait. En fait, la grande différence, c'est que tu ouvres ton micro et puis tu entends la nature sans aucune pollution sonore à des kilomètres à la ronde. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est comme si on revenait un peu à l'état originel. Et puis j'ai constaté, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'oiseaux, c'est-à-dire que peut-être que comme il y a moins de bruit de fond, on y fait plus attention et surtout ben, les oiseaux sortaient au bord des routes. Et donc je me suis surpris à faire des H1000 à 3 km de chez moi sur une route départementale, mais il n'y avait aucune bagnole qui passait, quoi.
Ouais, ça doit être assez impressionnant. On parle souvent, aujourd'hui, une expression à la mode, c'est le monde de demain, tu sais, le fameux. Toi, tu es plutôt inquiet.
Moi, je suis plutôt inquiet par rapport au monde de demain. En fait, moi, j'aime pas cette expression. En fait, quand j'ai commencé à faire cette émission, c'était une idée. L'idée était la suivante: comment essayer d'amener à des radios locales qui font la promotion de la création sonore, parce qu'il n'y a pas que sur France Inter et France Culture qu'on fait de la création sonore. Voilà, je l'ai dit. J'ai eu cette idée de mettre en œuvre une émission qui serait entre le reportage, la création sonore. Et donc cette idée m'est venue, puisque j'étais passionné de montagne, plutôt que de ramener des photos, de ramener en son mes pérégrinations sonores et montueuses. Voilà. Et donc je constate aujourd'hui que cette émission... peut-être, mais je ne l'ai pas voulu, fait plaisir aux gens, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, nous sommes en manque de nature, d'autant plus que chaque jour, on nous alerte sur les problèmes environnementaux. Alors, c'est bien de nous alerter. Moi, je préfère choisir l'angle de la beauté, c'est-à-dire humblement, je dis bien humblement, essayer de restituer une esthétique sonore de la nature afin de donner envie aux gens de la respecter. Plutôt que de dire « demain c'est fini, c'est foutu ». Voilà, voilà.
Oui, c'est ça, Schmitt, c'est une vraie respiration.
Oui, c'est une respiration. Je pense que c'est une respiration. Et je pense qu'il est inutile de dire aux gens « bon, il est interdit de faire ci, il est interdit de faire ça ». Plutôt les éduquer par une forme d'émotion, par une forme d'éducation à la beauté que la nature nous donne à voir, afin de la respecter.
Alors, tu parlais des radios locales et associatives hein, et de ton amour pour ces dernières. Il y en a combien qui diffusent aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'en ai entre 37 et 40 radios qui me diffusent. Et H1000, je dois le dire aussi, grâce aux radios locales, est devenu un modèle économique dans le sens où j'arrive à vivre de droits d'auteur, chichement. Voilà, je m'en tire un peu plus qu'un SMIC, mais ça me permet de vivre de cette passion. Et c'est pour ça que qu'il y a aussi un élan militant pour défendre la radio locale. Parce que voilà, c'est que les radios locales qui sont amenées à passer des programmes comme ça de 30 minutes. Si j'allais sur France Inter, on me dirait « fais ton émission en 3-4 minutes ».
C'est clair. Et justement, ouais, pour en vivre, tu passes par un organisme qui s'appelle l'ASCAM.
L'ASCAM, Société Civile des Auteurs Multimédia, c'est-à-dire chaque fois que l'émission est diffusée sur votre antenne, vous me signez un certificat de diffusion annuel. J'envoie ça à l'ASCAM, c'est un peu comme le système SACEM, et on touche des droits d'auteur. Alors je tiens à préciser, chers auditeurs, que les droits d'auteur sont très, très petits. Hein. C'est pas avec ça qu'on fait fortune. Non, ce que je pourrais dire, mais c'est un débat qu'on pourrait lancer, par exemple, je nomme encore France Inter, pourquoi ? Parce que c'est une radio dite publique, or sur la grille d'été, ils font que des rediffusions. Je pense qu'il est fort dommage qu'une radio publique ne lance pas un genre de projet national, envoyez-nous des programmes, ils les sélectionnent, même si on n'est pas rémunéré, je pense que ça ferait plaisir. De savoir qu'en fait, il y a des programmes issus des radios locales qui peuvent passer à grande échelle.
Voilà. Après, il y a quand même ouais, aussi des choses bien qui existent pour nous. Hein. Nous, on a le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc, je pense aussi, tu vois, ce qu'on appelle l'exception culturelle française, il y a quand même pas mal d'outils qui nous permettent de faire de la radio aujourd'hui.
Tout à fait. Justement, je pense qu'il faut défendre les radios locales et le fonds de soutien radiophonique. Ça, c'est tout à fait une vérité. Mais je trouve que les radios locales ne sont pas assez mises en avant. Lorsqu'on parle de radio ou de création radiophonique, on entend toujours un peu les mêmes sons de cloche. Or, la radio locale est un vivier de création, de promotion, d'émissions diverses et variées. Je dirais inégalé, quoi, inégalable.
Qu'est-ce qui t'a amené à la radio, finalement ?
Oh ben c'est tout simple, je m'amuse, enfin, c'est pas que je m'amuse, je dirais par rapport à la jeune génération, puisque je commence à avoir quand même un certain âge, que lorsque j'ai commencé la radio libre en 83, c'était le mouvement de liberté des radios libres. Si je faisais une analogie avec l'époque actuelle, la radio libre à l'époque, ça on considérait ça un peu comme le Facebook d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, au Facebook, on met tout et n'importe quoi. Mais la radio locale, c'était un peu tout et n'importe quoi. Tu voyais de la lumière, tu rentrais, tu disais « bah ouais, je vais faire une émission ». Et puis, bam, ça, on faisait l'émission comme ça. Il n'y avait pas forcément de projet écrit. On le faisait à la jamaïcaine, c'est-à-dire en simultané, comme ça, et on passait la musique que l'on voulait, on disait ce que l'on voulait. Des fois, c'était pas très fin, mais on avait une liberté d'expression qui, aujourd'hui, quand même, me semble un peu réduite. C'est pas un mal, parce que je pense que les radios locales aussi se doivent de se professionnaliser dans le sens quand même d'émissions qui soient constantes, suivies, bien construites, bien conçues. Pour autant, voilà, je ne suis pas nostalgique de cette période, mais c'est ce qui m'a amené à la radio locale, quoi, cette liberté d'expression. J'avais envie de passer mes vieux disques de Cure à l'époque où j'étais Batcave. Cure, Dead Cadence, Suicide. Voilà, on passait Suicide à la radio, quoi, Alan Vega et compagnie. Puis on se suicidait en direct. Bon, voilà, quoi. Tu vois, c'était des choses. Voilà, c'était la jeunesse, quoi.
Saison 2020-2021 d'H1000. Alors, peut-être pas décrire tous les épisodes parce qu'il y en a quand même un sacré paquet.
36, ouais. Ouais.
Peut-être deux ou trois que tu as vraiment aimé ou des coups de cœur que tu as eu.
Ben, les Vosges, parce qu'à un moment donné, il y a un orage de grésil et donc le micro arrive à percevoir en même temps l'orage de grésil, le vent qui passe dans ces sapinières fabuleuses et on a l'impression qu'en fait c'est la mer, quoi. Parce que ça fait une onde de choc, comme une vague, quoi, qui arrive. Ça m'a beaucoup étonné. Et puis en fait, toute la série, à partir de l'émission numéro 27, sur le confinement où il y avait le printemps explosé dans ma belle Ariège. Et puis peut-être une émission Première Neige. Les Premières Neiges, chaque année je fais une émission Première Neige parce que je trouve que la métamorphose du paysage est tellement fabuleuse et cela s'entend aussi en son, quoi. C'est...
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la radio?
En fait, mais de ne pas chercher à copier ce que l'on entend. Encore une fois, attention à ce que je vais dire, parce que tout le monde se met sur maintenant les podcasts, le web, la web radio. Je dirais d'abord, allez ouvrir la porte d'une radio locale, parce que vous serez accueillis par des gens qui sont des professionnels de la radio et qui peuvent vous donner des conseils. Et qui peuvent vous aiguiller, sur une certaine manière de parler, une certaine manière d'enregistrer. Voilà ce que je reproche au podcast, qu'il y a tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, moi, je peux faire une radio musicale en passant les derniers mix de techno ou de musique électronique. C'est très intéressant, mais ça ne fait pas grandir la radio en tant que matière. Je pense que la matière radiophonique peut devenir un art. Et donc, je conseille aux gens d'aller pousser la porte des radios locales. Et puis après, soit un autodidacte. Maintenant, il existe aussi des écoles. Mais les écoles, attention au formatage. Moi, avant, on m'avait dit que mon émission était pourrie. Et maintenant, je pense qu'elle a fait ses preuves.
C'est clair, et c'est tous les dimanches à H1000 à 16h sur nos ondes. Et oui, auditeurs, auditrices, notre porte est vraiment toujours ouverte. Merci beaucoup, Patrick.
Mais merci à vous de me diffuser, puis vive la radio libre et locale.
C'est toujours un plaisir de te recevoir, et on se revoit bientôt dans un an.
Dans un an, lorsque le mont Lozère, chaque fois que j'arrive, il y a un orage. Qu'est-ce que c'est ce pays, quoi.
Bonne route à toi, Patrick.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve mercredi avec Marilyn pour parler de ce monde fabuleux, le monde des associations. Merci Corto.
Pas de soucis.
Et merci à toutes et tous de nous suivre. Passez une excellente journée, profitez-en bien. On se quitte avec Yves Jamais. Le morceau s'appelle Je crois. À mercredi. Ciao.
Se lève tout en incertitude. Je crois en l'amour qui se rêve et sa béatitude. Je crois que c'est l'été quand ton sourire rayonne. Je crois qu'il faut s'aimer et s'aimer comme personne. Je crois en ce qui vit ici et maintenant. Et qu'après chaque nuit, il y a un jour naissant. Qu'au bout de tout hiver, éclate un printemps. Qu'on a les pieds sur terre et les cheveux au vent. Je crois que c'est très court et qu'il faut avancer. Qu'il faut courir toujours sans jamais s'arrêter. Je crois en la raison et aux doutes qui la fondent. Je crois en l'illusion qu'il existe ce monde où je veux vivre. Être libre. Libre de croire ou pas, sans dogme et sans pression. Je veux vivre. Libre. Oh oh. Je crois au temps qui chiffonne lentement. lentement les visages, qu'il n'y a pas d'automne sans que pleure un nuage, que sans mélancolie la vie n'est qu'un mensonge. Je crois au premier cri et en ce qui nous ronge. Apprivoiser, je crois en mon cœur quand il est insensé, quand il est amoureux, qu'il fait n'importe quoi, mais qu'il fait ce qu'il veut sans se soucier de moi. Je crois en l'avenir, aux enfants qui me portent, à ceux qui vont partir, à tout ce qu'ils m'apportent, au chemin qu'ils feront en me lâchant la main, et qu'un jour ils iront sans peur du lendemain, qu'ils puissent vivre, être libre, libre de croire ou pas, sans dogme, sans pression, qu'ils puissent. La vie est belle, je crois que je me mens. Je crois au Père Noël, aussi de temps en temps. Je crois qu'on est tout seul, qu'on n'y échappe pas. Je crois qu'on est tout seul et qu'ensemble on y va. Je crois aux deux néants qui bordent l'existence. Je crois qu'on est vivant même si l'inespérance. Je crois que l'ignorance se nourrit de sermons. Je crois que la souffrance fait perdre la raison. Mais moi je crois encore, je crois dur comme fer, en la vie avant la mort et non pas le contraire. Je crois quand je ris, je crois quand je pleure, je crois quand je jouis, je crois quand je meurs. Je veux vivre, être libre, libre de croire ou pas, sans dogme, sans pression. Je veux vivre, être libre, libre de croire ou pas, sans dogme, sans pression. Je veux vivre, être libre. Oh. Believe.